Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du 5 octobre 2020. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. Une centaine de djihadistes ont été libérés au Mali ce week-end en vue d'un échange avec l'opposant Soumaïla Cissé et l'humanitaire Sophie Petronin. Le président américain Donald Trump, hospitalisé à l'hôpital militaire de Walter Reed, pourrait sortir ce lundi selon ses médecins. Deux Américains et un Britannique ont reçu le Nobel de médecine pour leur travail sur le virus de l'hépatite C. Poursuite des combats au Nagorno-Karabakh, région séparatiste d'Azerbaïdjan, soutenue par l'Arménie. Juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. Au Mali, les regards sont tournés vers la région de Kidal où doivent avoir lieu des échanges de prisonniers et d'otages des djihadistes. Parmi les otages en question, on parle du président de l'URD, Soumaïla Cissé, et de l'humanitaire française, Sophie Petronin. Kassim Traoré nous en dit plus.
Ici, on attend la relaxe de Soumaïla Cissé très bientôt. Toutes les sources habituelles, claires, affirment fermement qu'il fait partie et le processus est enclenché. Nous confie un notable de Kidal. Les gens parlent de Tessalit comme un lieu de libération, mais logique, le vrai ne serait qu'une fois Soumaïla Cissé remis soit aux autorités maliennes et ou à une organisation non gouvernementale, ajoute une source basée à Tessalit. Parmi les prisonniers dans l'échange, il y aurait Fawaz Ould Almeida, dit Ibrahim X, impliqué dans les attaques du restaurant La Terrasse et l'hôtel Radisson. C'est pourquoi des chaînes proches de Al-Qaïda se réjouissent et annoncent ce qu'ils appellent bonne nouvelle. Selon une source sécuritaire basée à Bamako, les djihadistes qui seront libérés avaient déjà leur dossier entre les mains des juges. En plus de Soumaïla Cissé, la Française Sophie Petronin peut-être aussi parmi les otages qui seront remis aux autorités maliennes. Au moment où nous éditions cette information, Soumaïla Cissé n'avait pas encore été libéré. Et la dernière vague des prisonniers n'avait pas quitté la capitale malienne pour Tessalit, Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
Les écoles ont rouvert en Sierra Leone, mais avec une fréquentation timide. Les écoles maternelles ont ouvert la semaine dernière et tout se passe bien, a déclaré le ministre de l'Éducation, David Mwanina Senge. Plusieurs des écoles de Freetown étaient partiellement vides ce lundi, avec pour la plupart des dispositifs pour se laver les mains à l'entrée et beaucoup d'élèves qui portaient un masque. Toujours en Sierra Leone, l'interrogatoire de l'ex-président Ernest Pai Koroma par une commission anticorruption a été reporté à jeudi et pourrait être déplacé en dehors de Freetown pour des raisons de sécurité. Plusieurs anciens responsables de l'administration Koroma ont été arrêtés dans le cadre de la lutte anticorruption engagée par Julius Madabio. Koroma, à qui il est interdit de quitter le territoire, avait été convoqué par les enquêteurs ce lundi. Les autorités égyptiennes ont arrêté une journaliste qui enquêtait sur les suites de manifestations dans un village près de Louxor. Basma Mostafa a été déférée au parquet dimanche après avoir disparu la veille alors qu'elle effectuait un reportage. Elle s'intéressait à la mort d'un homme qui aurait été tué par la police pendant des manifestations en septembre, selon Al-Manassa, journal pour lequel elle travaille. En Algérie, des rassemblements de centaines de personnes ont eu lieu ce lundi à Alger et en Kabylie pour l'anniversaire du soulèvement populaire du 5 octobre 1988. Bravant l'interdiction de rassemblement, les manifestants ont réclamé la libération des prisonniers du Irak. À Alger, plus de 400 personnes ont tenté de marcher dans le centre-ville avant d'être repoussées par la police. Par ailleurs, les élèves du primaire en Algérie vont reprendre l'école en présentiel le 21 octobre et ceux des collèges et lycées le 4 novembre, après plus de 7 mois d'interruption en raison de la pandémie de Covid-19. Ces dates ont été annoncées dimanche à l'issue d'une réunion du Conseil des ministres présidée par le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune. 8 migrants éthiopiens sont morts et 12 autres sont portés disparus après que des passeurs les ont éjectés d'un bateau au large des côtes de Djibouti, a déclaré l'OIM à Nairobi. Selon des survivants, 3 passeurs ont violemment poussé des jeunes hommes et femmes hors du bateau en pleine mer. 34 migrants étaient à bord du navire qui se dirigeait vers Obok à Djibouti pour se rendre dans les pays du Golfe.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump doit rencontrer ce lundi les médecins qui le soignent à l'hôpital militaire de Walter Reed, où il est entré vendredi soir après avoir été testé positif au coronavirus. Claire Morin-Gibourg.
Le secrétaire général de la Maison-Blanche, Mark Meadows, s'est exprimé sur la chaîne Fox News. « Nous sommes toujours optimistes sur le fait qu'il pourra retourner à la Maison-Blanche plus tard dans la journée », a-t-il déclaré, ajoutant que l'état du président avait continué à s'améliorer. Hier soir, le président est sorti brièvement en voiture pour saluer ses partisans massés devant l'hôpital. Cette sortie a été critiquée par le docteur James Phillips, chef du service de médecine des catastrophes à l'université George Washington, évoquant le risque de transmission à l'intérieur du véhicule. Judd Deer, porte-parole de la Maison-Blanche, a affirmé que les précautions appropriées avaient été prises. À un mois de la présidentielle, le candidat démocrate Joe Biden, qui affrontera Donald Trump le 3 novembre prochain, a envoyé ses vœux de rétablissement au président. « C'est un sérieux rappel pour nous tous », a ajouté l'ancien vice-président. « Nous devons prendre ce virus au sérieux ».
La ville de New York prévoit de refermer écoles et commerces non essentiels dans 9 quartiers de Brooklyn et Queens, où l'épidémie repart depuis 2 semaines. Le Royaume-Uni, pays le plus endeuillé d'Europe, a dépassé dimanche la barre des 500 000 cas de Covid-19. En France, le préfet de Paris a annoncé de nouvelles mesures, dont la fermeture des bars à partir de mardi pour faire face à la progression de la pandémie dans la capitale. Selon l'OMS, 10% de la population mondiale est infectée par le coronavirus. Coup d'envoi des prix Nobel 2020 avec celui de médecine attribué à 3 virologues, le britannique Michael Houghton et les américains Harvey Alter et Charles Rice. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Le trio est récompensé pour sa contribution décisive à la découverte du virus de l'hépatite C, a indiqué le jury. À la fin des années 70, Harvey Alter a identifié qu'une contamination hépatique a lieu lors de transfusions alors qu'elle n'était ni liée à l'hépatite A ni l'hépatite B. En 1989, Michael Houghton et son équipe basée au Canada sont crédités de la découverte du virus. Charles Rice a ensuite décortiqué la façon dont il se répliquait, des travaux qui ont conduit à l'émergence d'un nouveau traitement révolutionnaire dans les années 2010. Patrick Hanford, président du comité, a souligné que le même procédé pourrait être utilisé concernant le COVID-19. Je n'avais même pas réalisé que c'était aujourd'hui. C'est époustouflant, a réagi Harvey Alter, 85 ans. L'OMS estime à 70 millions le nombre d'infections par l'hépatite C, causant 400 000 décès chaque année. Les lauréats qui partageront près d'un million d'euros recevront leur prix dans leur pays de résidence. Cette édition 2020 se poursuit demain avec la physique et mercredi avec la chimie. Le Nobel de la paix sera attribué vendredi. Le coronavirus a entraîné l'annulation de la cérémonie physique de remise des prix le 10 décembre à Stockholm.
Les combats continuent dans le Nagorno-Karabakh, région séparatiste d'Azerbaïdjan à majorité arménienne. Les affrontements ont fait 245 morts depuis le début du conflit. Le secrétaire général de l'OTAN appelle au calme, Mohamedou Oumfa.
Les forces séparatistes arméniennes du Nagorno-Karabakh et l'armée azerbaïdjanaise continuent leurs affrontements. Ce lundi, pour la deuxième journée consécutive, des zones urbaines sont bombardées. Le ministère des Affaires étrangères des indépendantistes du Karabakh a indiqué que leur capitale, Stepanakert, peuplé de 50 000 habitants, avait été visé par des tirs de roquettes intensifs. Selon un témoin, la ville a subi 3 heures de bombardement. Ce lundi, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a exhorté la Turquie, principal allié de l'Azerbaïdjan, à user de son influence pour calmer les tensions. Le chef de la diplomatie turque a, pour sa part, estimé que l'ONU devrait appeler l'Arménie à se retirer de l'enclave et au respect de l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan. Après plus d'une semaine de combat, le bilan des morts, qui est très partiel, l'Azerbaïdjan ne communiquant pas sur ses pertes militaires, s'établit à 245, soit 202 combattants séparatistes, 18 civils du Karabakh et 25 civils azerbaïdjanais.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nani Talani.
Alors qu'il misait initialement sur une croissance de 5,3% en 2020, le Sénégal a dû revoir ses prévisions à la baisse. Le pays s'attend désormais à voir son PIB reculer de 0,7% cette année. Cette baisse est due au Covid-19 qui a surtout affecté le transport aérien ainsi que le tourisme et les versements des Sénégalais de l'étranger, deux importantes sources d'argent. En Angola, Edetru Des Costa, directeur de cabinet et bras droit du président Lourenço, est accusé de détournement de fonds publics par une enquête de la télévision portugaise privée TV24 relative à plusieurs contrats publics accordés à des entreprises appartenant à M. Costa. L'un de ces contrats porte sur la rénovation des aéroports angolais pour un montant de plusieurs millions de dollars. Selon TV24, M. Costa a transféré ses fonds publics sur des comptes offshore au Panama et au Portugal pour acheter de luxueuses propriétés. Ni le chef de l'État ni son bras droit n'ont commenté ces accusations. Pour terminer, 143 milliards de francs CFA, c'est le coût du stade olympique d'Abidjan et ses installations annexes en Côte d'Ivoire que les autorités ivoiriennes ont inauguré le week-end et que la Chine a financé à hauteur de 63 milliards de francs CFA. Les travaux ont été exécutés sur près de 4 ans par une entreprise chinoise. Le stade des Bimpé accueillera le match d'ouverture et la finale de la CAN 2023.
À présent, les sports présentés par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Des nouvelles du marché des transferts avant la fermeture ce soir. Le Bayern Munich a officialisé le recrutement pour une saison d'Éric Maxime Choupo-Moting en provenance du Paris Saint-Germain. L'attaquant international camerounais de 31 ans a signé un contrat jusqu'au 20 juin 2021, indique le club bavarois sur son site internet. L'ancien Parisien, qui doit servir de doublure au buteur Robert Lewandowski, a déjà joué en Allemagne à Hambourg, Nuremberg, Mayence et Schalke 04. Le Bayern Munich était sous pression pour recruter avant la fin du mercato ce soir. L'entraîneur Hansi Flick avait demandé plusieurs renforts pour compenser les départs, notamment de Philippe Coutinho et Perisic en attaque et de Thiago Alcantara en milieu de terrain. De son côté, le FC Séville a accueilli un nouveau joueur marocain, Ousmane Idrissi, qui arrive de l'AC Alkmaar. Il a signé un contrat de 5 ans avec le club espagnol, rejoignant ainsi ses compatriotes Yassine Bounou, Mounir El Adadi et Youssef El Nesri, déjà en Liga. Athlétisme, coup de tonnerre hier sur le marathon de Londres, invaincu depuis 7 ans. Le Kenyan Eliud Kipchoge a craqué en fin de course et terminé seulement 8e. La victoire revenant à l'Éthiopien Shura Kitata à l'issue d'un sprint dantesque. Kitata l'a emporté en 2h5min41s devant le Kenyan Vincent Kipchumba à 1 seconde et son compatriote Cizei Lema à 4 secondes. Pour la première fois de sa carrière sur marathon, Eliud Kipchoge a subi une défaillance et n'a pas pu jouer la victoire. Sa seule défaite remontait à Berlin en 2013 où il avait terminé 2e derrière son compatriote Wilson Kipsang Kipruchich. Shura Kitata, 24 ans, remporte ainsi sa première victoire majeure. Chez les femmes, la favorite a su se faire respecter. La Kenyane Brigitte Kosgei a assis sa domination sur la distance en remportant la course pour la 2e année consécutive en 2h18min58s. Ici, en finale NBA, le cœur du Heat bat encore grâce à Jimmy Butler, auteur d'un énorme triple-double, 40 points, 11 rebonds et 13 passes décisives. Il a mené son équipe à une victoire cruciale aux dépens des Lakers, 115 à 104. Miami, dont c'est la 6e finale en 15 ans, a réalisé un véritable exploit, d'autant que ses deux cadres Bam Adebayo, non remis de ses tensions cervicales, et Gorjan Dracic, qui souffre d'une blessure au pied gauche, était encore absent. Du début à la fin, le Heat a constamment dominé. Los Angeles a fait illusion par à-coup grâce surtout à LeBron James, 25 points, 10 rebonds, 8 passes décisives. Le Heat reste cependant mené 2-1 dans cette finale relancée.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive. Écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. En République du Congo, célébration du 140e anniversaire de la fondation de la capitale Brazzaville. Sous fond de polémique, certains Congolais estimant qu'il est temps de mettre fin au culte du colonisateur. La capitale porte en effet le nom de Pierre Savornian de Brazza, franco-italien qui a effectué sa première expédition sur le continent en 1872 et dont le pays a consacré un mémorial. Un reportage de notre correspondant Arsène Sévrin.
Plusieurs cérémonies ont marqué la célébration des 140 ans de la fondation de Brazzaville. Partout, le nom de l'explorateur français Pierre Savornian de Brazza, son fondateur, a été magnifié. Or, depuis un moment, certains Congolais estiment que le pays a trop fait de la place à ce colonisateur. Pour l'activiste citoyen Charlène Kinoani et le politologue Constant Ebarapeya, il est temps que le Congo mette en avant ses propres héros.
On ne peut pas continuer à avoir des rues sur Brazzaville qui portent les noms de ceux qui nous ont colonisés, de ceux qui ont maltraité le peuple congolais. Nous avons intérêt à rebaptiser les espaces coloniaux, lycée Savornian de Brazza, square de Gaulle.
Il faudrait déboulonner le statut de Brazza pour remplacer celui de Makoko. Ce n'est que légitime, parce que je ne pense pas que pour voir au plein corps de Paris ou en plein Élysée qu'on élève une statue de Ngwabi ou de Lissouba ou de Milongo, je ne sais pas. Donc, c'est une revendication légitime.
Même pour l'historien Melfon Kamba, le colonisateur Savornian de Brazza mérite encore de la reconnaissance et des éloges des Congolais.
Quand il arrive ici, c'est pas pour Brazzaville, non. C'est le Congo, la communauté du Congo. Bien avant lui, il y a eu des colons, ou si vous voulez, des Européens, mais personne n'a eu l'idée de nous réunir dans un espace aussi communautaire sur lequel aujourd'hui nous nous battons. Bien sûr que le point de départ de son contact avec Mokoko, et ça aussi, il faut essayer aussi d'établir les choses.
Le Congo a consacré depuis 2005 tout un mémorial à son colonisateur, un palais de marbre à coups de milliards de francs CFA. Sa directrice Belinda Aïssa défend que Savornian de Brazza fut un humaniste et que la population ne devrait pas déboulonner pour déboulonner.
Il faut tout déboulonner. Oui. Il faut dépassionner l'histoire. C'est très important que l'on ne déboulonne pas pour déboulonner, parce que ces statues sont des repères pour nous, qui nous rappellent notre histoire.
Créée le 3 octobre 1880, Brazzaville a tour à tour été capitale du Moyen Congo, de l'Afrique équatoriale française et de la France libre. Elle s'apprête à célébrer le 27 octobre prochain, malgré la protestation des activistes, le 80e anniversaire de l'appel à la résistance du général de Gaulle, lancé ici même. Arsène Sévérin, Brazzaville, VOA Afrique.
Participez à notre magazine interactif à votre avis du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique et voaafrique.com. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
La deuxième ville du Burkina Faso, Bobo-Dioulasso, a organisé ce week-end la compétition de danse urbaine Couleur Vacances. Malgré le contexte de pandémie, la manifestation a pu se tenir, mais le concours qui se veut régional n'a pas pu accueillir, comme les années précédentes, des participants de pays comme la Côte d'Ivoire, le Mali, le Togo ou encore le Bénin, en raison de la crise sanitaire. Un reportage de notre correspondant Lamine Traoré.
De la danse, encore de la danse devant des milliers de spectateurs. 5 groupes en compétition, 2 de Ouagadougou et 3 de Bobo Dioulasso. Au finish, c'est le groupe Samouraï de Bobo Dioulasso qui est monté sur la plus haute marche du podium en remportant 1 200 000 francs CFA. Mohamed Dambélé est le coach du groupe.
On est trop contents ce soir parce que bon, on vient de réaliser notre rêve. Oui, le corona, ça nous a trop empêché de bosser parce que au niveau de la préparation, quand on voulait demander du financement pour nos matériels dedans, nos accessoires, ça n'a pas été facile. Tout le monde nous fuyait. Bon, on les comprenait parce que le corona, vraiment, ça n'a pas été facile.
Même dans ce contexte de coronavirus, le public a répondu présent. Des mesures barrières plus ou moins respectées. Une spectatrice.
Franchement, c'est la finale de la Couleur Vacances. En réalité, c'était chaud, vraiment chaud. Vous ne savez pas qui choisir, tellement c'était chaud. Avant de rentrer, on nous a donné du gel pour laver les mains, pour nettoyer les mains.
Cet étudiant est venu lui aussi assister au spectacle.
Chaque année, voilà, on assiste à une cérémonie pareille qui rassemble les élèves, les étudiants autour de la culture. Et c'est un réel plaisir d'assister. C'est vrai que le contexte actuel est critique, voilà, et que nous devons tenir compte des mesures barrières. Mais c'est toujours un plaisir d'assister à une cérémonie à laquelle où on sent que les gens ont de plus en plus confiance, voilà, en ce que l'État fait. Voilà, même si c'est difficile pour nous de respecter ces mesures-là, mais on va continuer toujours avec l'aide de nos aînés.
Avec le Covid-19, les organisateurs n'ont pas pu ouvrir cette édition des Couleurs Vacances au pays de la sous-région.
Couleurs Vacances est une compétition internationale qui regroupe d'habitude 7 à 8 pays.
Sylvain Bamouni est le directeur des opérations du groupe Ebony, structure organisatrice de la manifestation.
Cette année, vous êtes tous au courant de cette pandémie de coronavirus, ce qui n'a pas permis aux groupes étrangers de faire les déplacements sur Bobo Dioulasso. Donc nous avons fait une compétition nationale en regroupant les différents groupes des différentes régions du Burkina qui se sont croisés à Bobo.
Cela fait 14 ans que la manifestation qui réunit chaque année les jeunes pendant les vacances se tient. Les organisateurs n'ont pas voulu annuler cette édition. Ils espèrent que la 15e édition en 2021 se tiendra, elle, dans de meilleures conditions. Lamine Traoré, Bobo Dioulasso, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Cette semaine, tous les regards sont braqués sur le président Donald Trump en traitement à l'hôpital militaire Walter Reed, près de Washington, après avoir été testé positif au coronavirus. Le chef de l'exécutif américain a assuré ce week-end dans une vidéo qu'il se sentait beaucoup mieux et qu'il espérait bientôt regagner la Maison Blanche. Le point avec Michel Kin, le récit de Lionel Gaïma.
Beaucoup d'inconnus entourent l'état de santé du président Trump, y compris comment son infection au Covid-19 pourrait affecter la campagne pour la présidentielle du 3 novembre. Plus de 35 millions de personnes ont été atteintes du nouveau coronavirus dans le monde, selon l'Université Johns Hopkins de Baltimore, dans l'État du Maryland. Dans une vidéo publiée samedi sur Twitter, le président Trump a lié sa lutte personnelle contre le Covid-19 à une mission pour aider les autres malades.
C'est quelque chose qui est arrivé, et c'est arrivé à des millions de personnes dans le monde entier. Je lutte pour elles, non seulement pour les États-Unis, mais je lutte pour elles dans le monde entier. Nous allons vaincre le coronavirus, ou quoi que vous vouliez l'appeler, et nous allons le vaincre nettement.
Les médecins du président des États-Unis ont fait savoir dimanche qu'ils le traitent avec le stéroïde dexamétasone et qu'il pourrait regagner la Maison Blanche de ce lundi. La maladie du président intervient alors que son adversaire, l'ancien vice-président Joe Biden, et lui amorcent les quatre dernières semaines de campagne. L'équipe de Biden affirme avoir retiré des publicités électorales négatives après avoir appris que le président Trump avait été contrôlé positif au nouveau coronavirus. Un débat prévu mercredi entre le vice-président Mike Pence et la colistière de Joe Biden, la sénatrice Kamala Harris, est toujours au programme. Plusieurs sondages nationaux donnent l'avantage à Biden dans les intentions de vote. Comment la maladie du président affectera-t-elle les dernières semaines de la campagne électorale? Cette situation a forcé le camp Biden à fonctionner en deux modes. Exprimer sa préoccupation concernant l'état de santé de Trump, tout en établissant un contraste entre les styles de leadership des deux candidats. Kate Bedingfield est directrice adjointe de la campagne de Biden.
Ce n'est pas une question de politique, c'est une question du président des États-Unis recouvrant pleinement sa santé aussitôt que possible. Et je pense qu'en ce qui concerne notre campagne, comme je le dis, nous allons continuer de faire valoir le style de leadership de Joe Biden, son expérience, son unique habilité à unir le pays, à trouver un terrain d'entente, à trouver un consensus et faire avancer les choses.
Pour Jason Miller, haut responsable de la campagne de Trump, le président a pris de nombreuses précautions et a prouvé qu'il est un leader dans la lutte contre le virus.
Également, et ainsi que nous l'avons vu avec Joe Biden, je veux dire, nous ne pouvons pas rester dans notre sous-sol pour le restant de nos vies. Nous devons sortir et vivre nos vies, affronter cette situation, développer le vaccin, développer plus de traitements et la vaincre.
Pour le camp Trump, ce moment pourrait être une opportunité pour persuader les indécis qui pourraient faire la différence au jour du vote, estime la stratège républicaine Alice Stewart.
Il a besoin d'en parler à ses électeurs indécis. Et en adoptant un ton plus empreint de compassion et en reconnaissant la gravité de cette pandémie, cela pourrait certainement aider à faire pencher les gens n'ayant pas encore pris de décision.
Une chose est certaine, personne ne connaît l'issue de ce qui est déjà une bataille ardue pour la Maison-Blanche.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne soirée à toutes et à tous et bon courage.
Our every moment, I start to replace. Cause now that the corner lock, here were the words that I needed to say. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, time can heal, but this won't.
can heal but this wound. So before you go, was there something I could have said to make your heart beat better? If only I'd have known you were the storm to weather. So before you go, was there something I could have said to make it all stop hurting? It kills me how your mind can make you feel.
It is.